Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et on aime le public de Nancy. Bienvenue à l'Opéra National de Lorraine pour un masque et la plume consacré à la rentrée littéraire à l'occasion de la 44e édition du Livre sur la Place qui accueille cette année plus de 500 auteurs. Et sur la scène de l'Opéra, autour de moi, les belles voix du masque, Elisabeth Philippe de Lops, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, désormais surnommé le Basque et la Plume, et Arnaud Vivian de Regard et de Transfuge pour parler des nouveaux livres de Catherine Millet, Russell Banks, Yannick Enel, Sally Rounet et Yegor Gran. Dans le courrier de la semaine, après vos éloges unanimes adressé à Virginie Despentes pour Cher Connard, il fallait s'attendre aux remontrances des auditeurs. En voici deux parmi des dizaines d'autres. Pour Stéphane de Paris, ce Despentes-là est un naufrage stylistique. Marc de Paris parle de la mauvaise pente de Despentes, ayant trouvé ce roman très raté. Suis-je un connard? Ce livre est un échange de mails qui pèse des tonnes, rédigé dans un style uniforme, un recyclage massif des poncifs d'une France faussement insoumise, mais urbaine et privilégiée, réduite aux embarras de coke, de picole et de cul. Je viens péniblement, ajoute Patrice Leformal, d'acheter le dernier roman de Virginie Despentes, dont j'ai lu tous les livres, après le très beau et quasi mystique Vernon Subutex. Cher connard, m'a mis face à une armée mexicaine composée de vilains masculinistes, féministes désorientés, LGBT trop cool et drogués repentis. Ce fut hélas très long et dehors il faisait grand beau, alors je me suis levé et je me suis cassé. Daniel Amblore du Havre, je m'attendais à une vraie claque et j'ai lu un texte informe, à la langue relâchée et au contenu ennuyeux. Je rappelle quand même qu'en général, quand on écrit au masque, c'est en général pour dire le contraire de ce qu'ont exprimé les critiques à cette tribune. Déçu aussi Lucille Rochas, qui adorait le style de Despentes, mais qui juge ce roman sans vision ni écriture. Sans compter la flopée de mails, comme celui de Michel et Salah de Montpellier, reprochant au masque d'avoir oublié de citer ce texte écrit par Despentes dans Les Arocs sur les frères Kouachi. J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes et avaient décidé de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Ou encore Nadia Broitman de Paris, fidèle du masque. J'ai été très déçu par l'amnésie dont tous vos critiques ont fait preuve au sujet des propos de Virginie Despentes dans Les Arocs du 17 janvier 2015, juste après les attentats de Charlie. C'est à vomir. J'apprécierais une réponse de votre part m'expliquant pourquoi au masque ce silence. Est-ce que vous voulez répondre là-dessus, Elisabeth?
Oui, ce texte, elle l'a écrit effectivement en 2015. Je comprends qu'il puisse choquer. Après, il est ressorti en fait de façon très très massive en 2020 après la tribune que Virginie Despentes avait écrite, la fameuse tribune « On se lève, on se casse ». Et comme un retour de bâton, ce texte est ressorti, enfin toujours les mêmes phrases, sorties de leur contexte, et voilà, qui venait comme une sorte de vengeance de ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle disait dans sa tribune « On se lève, on se casse ». On n'en a pas parlé à la tribune, mais il me semble pas qu'on en ait parlé et qu'on nous ait demandé d'en parler au moment de la sortie des trois tomes de Vernon Subutex. Donc là, c'est vraiment lié. C'est vraiment une réaction à sa tribune de 2020.
Frédéric, tu veux ajouter un mot?
Moi, je préfère Virginie quand elle est romancière que quand elle prétend penser. Les textes en question sont révoltants et stupides. Donc je comprends les réactions des auditeurs.
J'en ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pour ça que je me devais au moins d'en citer quelques-unes ce soir. On est à Nancy, la ville des Goncourt, comme chaque année, et comme chaque année, je vous demande à qui vous donneriez le prix Goncourt 2022. Elisabeth, vous avez...
Il faut choisir dans la liste qui a été établie, la première sélection.
Tu fais ce que tu veux, on est libre au masque.
On est libre, mais je vais quand même être un petit peu soumise. Non, dans la liste, il y a le livre de Monica Sabolo, La vie clandestine, et je trouve que ça ferait un très beau prix Goncourt.
Jean-Claude ?
Moi, je vais faire une réponse double.
Non, tu fais la réponse simple.
Dans la liste, si je prends la liste, moi, je vote pour le match du Kremlin de Giuliano d'Empoli, et je reproche au jury Goncourt de ne pas avoir sélectionné Mathieu Bellezzi, Attaquer la Terre et le Soleil, qui est un des très grands livres de cette rentrée.
Dont on parlera au Masque et la Plume, d'ailleurs. Arnaud ?
À qui je le donnerai ? Moi, je le donnerai à un livre dont on va parler ce soir, Yannick Enel, mais il n'est pas dans la liste.
Frédéric ?
J'hésite entre Catherine Millet, pour commencement, dont on va parler ce soir. Je trouve que vraiment un très très grand livre. Et puis Les liens artificiels de Nathan Dever, qui est sur la liste du Goncourt et qui est un premier roman chez Albin Michel.
Ben nous voilà avancés. Hein. Et on commence avec Z comme zombie de Yegor Gran chez POL. Un petit livre en préambule duquel l'auteur écrit la mutation de la Russie en Zombieland toxique est ce qui a rendu la guerre possible et s'est précédé de cette précaution d'usage. Certes, tous les Russes ne sont pas comme ça. En 170 pages, Yegor Gran montre l'effet de la propagande poutinienne qui pervertit les esprits les plus avertis. Les zombies, même quand on leur montre des images de massacres et de destruction, parlent d'opérations militaires spéciales et non de guerre. Gagnés par la folie nationaliste, ils préfèrent le mensonge à la vérité. Ils se gavent de fake news. Ils sont convaincus que les Ukrainiens se bombardent eux-mêmes. Ils haïssent l'Occident, ce grand Satan, tout en voulant ses produits et ses McDo. Et ils tiennent que les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. À toutes nos envies d'amour, conclut Yegor Gran, la Russie a répondu par des crimes de guerre, des pitreries vulgaires et une pluie de coups tordus. Je rappelle que Yegor Gran est né à Moscou, qu'il est le fils de l'écrivain Andrei Sinyavsky, envoyé au goulag par le KGB. Histoire d'ailleurs que Gran a raconté il y a 2 ans dans les services compétents dont on avait longuement parlé. Au Masque et la Plume, Z comme zombie. Frédéric ?
Je trouve que c'est un pamphlet, hein. Donc d'habitude, c'est rare qu'on sélectionne des pamphlets.
Tu parles de moi là dans ma programmation.
Au Masque et la Plume. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas une émission sur les essais, c'est plus une émission sur les romans.
Mais je fais ce que je veux.
Et c'est très bien de l'avoir sélectionné parce qu'il est ultra efficace. C'est très.
Ça a pas duré.
Franchement, ce livre a remporté le test de popularité pendant cet été dans ma maison en vacances. Tout le monde l'a lu. Tout le monde se l'est repassé et vraiment l'a dévoré. Donc c'est extrêmement efficace, fluide, très violent, très russophobe, il faut le dire. Alors lui-même, en préambule, dit que tous les Russes ne sont pas comme ça. Mais enfin, c'est quand même un pamphlet assez brutal. Il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des zombies nationalistes qui utilisent, que Poutine utilise parmi le peuple russe pour transformer une sorte de misère sociale en revanche, en impérialisme, en violence, quoi. C'est-à-dire, c'est l'exutoire à la misère, cette guerre. Bon, ça, c'est une réalité. Mais, tout de même, comme tous les pamphlets, ça me paraît vraiment extrême. Moi, je préfère essayer de soutenir mes amis russes qui sont contre Poutine et qui existent, qui sont nombreux. Et qui ont
mais
beaucoup
il en
de
parle.
Mal.
Il parle de Russes qui sont contre Poutine. C'est sa source d'information. Enfin, puisque lui parle en russe couramment, il puise en fait toutes les informations, tous les faits qu'il donne, qui sont ahurissants. Enfin, il y a une série de faits divers. Tout ça, il le trouve sur Internet, il le trouve aussi, ce sont ses amis russes qui lui confient des histoires plus folles les unes que les autres. Et oui, c'est outrancier, mais en fait, il répond par l'outrance à l'outrance de la propagande russe qui détaille de façon très, très saisissante.
Mmh. Bon, si tu veux, mais je trouve qu'il y a, si tu veux, il y a un autre livre qui est intéressant, écrit par un russe aussi, qui s'appelle « Je vous écris de Moscou », d'Alexandre S. C'est un pseudonyme aux éditions de l'Aube et qui dit pas du tout la même chose. Alors je ne sais plus qui croire. Il y a aussi beaucoup de Russes qui militent, qui soutiennent Navalny, qui essaient de...
Mais le défi est de comprendre ce qui est en train de se passer.
Oui.
Pourquoi cette guerre existe? Pourquoi le peuple russe ne se révolte pas? C'est ça l'enjeu de Yegor Gran. C'est pas de pointer la minorité extrêmement courageuse qui est en train de lutter contre Poutine, mais de comprendre pourquoi il y a cet assentiment généralisé à un truc et de la pure folie, quoi. et de la folie d'un dictateur qui a imposé une sorte de vérité officielle à ce peuple et qui est aujourd'hui lobotomisé par ces fameux zombies qui sont des agents toxiques, eux-mêmes intoxiqués. Et c'est vrai que c'est fascinant, mais c'est un défi à l'intelligence, c'est ce qui est en train de se passer en Russie, et cet assentiment. Et je trouve que, alors là, pour le coup, le pamphlet de Yorgo Grand est un livre absolument indispensable. C'est-à-dire qu'en effet, ce que disait Elisabeth est juste. Tout ce qui
que je conseille de lire après le livre qu'on avait beaucoup raconté et promu au masque, qui est Le Mage du Kremlin, d'Ampoli.
Les deux sont indispensables, oui.
Alors, on laisse peut-être Elisabeth terminer ce qu'elle avait commencé à dire.
Non, mais c'est certain, c'est un texte outrancier qu'on sent porté par une colère, par une rage très, 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 très vive. Après, ça repose sur énormément de faits, de données, et c'est ce que disait Jean-Claude. C'est vraiment, il montre le processus de zombification d'un peuple. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il explique que ça passe énormément, évidemment, par les médias, par la propagande, la télévision. Et en russe, il y a un mot qui a été créé pour parler de la télé, c'est le zombokès. Donc déjà, la télé est envisagée en Russie comme une machine à zombifier les esprits. Et là, évidemment, avec Poutine, ça a pris des proportions démentielles. Et oui, chaque phrase explose un peu comme un cocktail Molotov, mais alors, comme un cocktail Molotov qui n'est pas dans une bouteille en plastique, parce qu'à un moment, il évoque justement cette mise en scène des services de renseignement russes qui ont mis en scène donc une fausse interpellation d'un groupe néo-nazi censément proche des Ukrainiens, et ils avaient placé des cocktails Molotov sur ordre évidemment du pouvoir, sauf que c'était des cocktails Molotov dans des bouteilles en plastique, donc ils n'avaient aucune chance d'exploser. Et il y a énormément de faits comme ça qu'ils rapportent, et au bout d'un moment on a l'impression que c'est un pays qui baigne dans une forme de folie, enfin c'est terrifiant.
Et de bêtises.
Jean-Claude ?
Non, mais ce qui est intéressant dans le livre de Yegor Khan, c'est comment il explique que ce vent mauvais du poutinisme, qui s'appuie sur des vieilles croyances russes, et notamment l'idée que c'est un peuple qui se croit élu par Dieu et qui doit affirmer sa puissance sans limite, il n'y a plus de limite, c'est la propagande poutinienne, en occultant toutes ses insuffisances et sa déliquescence propre. Mmh. Voilà. Et si tu veux, ce que moi je trouve très impressionnant dans le livre de Yegor Khan, c'est qu'il explique qu'il y a une sorte de vent mauvais de cette propagande comme ça qui a zombifié les esprits, qui emporte la Russie vers un chaos et le gouffre d'un suicide collectif. Et ce qu'il y a de terrifiant dans le livre de Yegor Khan, c'est qu'il ne voit pas lui-même aujourd'hui comment guérir ce peuple de cette aliénation volontaire. Et c'est ça qui est tragique.
Tu dis ce peuple, c'est une partie du peuple, et il y a énormément de Russes, moi, que je connais,
oui,
qui sont catastrophés, qui s'exilent, qui se taisent et boivent toute la journée.
Mais on est d'accord,
il y en a plein qui... de Big BD?
Non.
Non, mais on est d'accord, il y en a plein qui vont même en prison. On est d'accord, mais c'est pas ça qui va permettre d'essayer de comprendre pourquoi cette guerre continue, pourquoi Poutine ne renonce pas, pourquoi les Russes croient en effet qu'on va aller dénazifier un peuple qui demande juste son indépendance et sa liberté. Je veux dire, on est en plein 1984, c'est cette lobotomie des cerveaux qu'il analyse, et pour le coup, en effet, c'est violent, mais je pense que c'était la seule façon d'attaquer ce problème-là.
Arnaud.
Comment vous dire? C'est un pamphlet, effectivement, c'est-à-dire un texte bref, il est bref et violent. En général, un pamphlet, c'est un genre qui a sa noblesse. Hein. Songeons à Napoléon le Petit de Victor Hugo, c'était un pamphlet, mais contre une personnalité. Un pamphlet contre Vladimir Poutine aurait été, à mon avis, acceptable. Un pamphlet peut-être contre une organisation, mettons le Kremlin, aurait été acceptable. Un pamphlet contre tout un peuple, je suis désolé, il y a trop de mauvais souvenirs. Les pamphlets contre tout un peuple, c'est les pamphlets de Louis-Ferdinand Céline. C'était les pamphlets sur le peuple juif. C'est un pamphlet contre un peuple. Un pamphlet contre un peuple, c'est vraiment une idée.
Comment peux-tu comparer?
Excusez-moi, c'est totalement scatologique. Mais totalement scatologique, mais tout le temps, traiter la Russie de mère vicieuse et salope. Mais
il épargne pas davantage l'Occident. Il traite l'Occident de prostituée de luxe.
Non, il dit aussi c'est un paquebot aimable sur les mers calmes. Non, justement l'Occident est très bien servi dans son
livre. Il parle très bien de l'aveuglement de l'Occident et des illusions de l'Occident, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas vrai.
L'animalisation tout le temps des Russes, là, sous la forme de zombies, n'est pas sans rappeler l'animalisation des Juifs sous la forme
mais
de rats dans les
forêts. Mais tu peux pas dire ça, c'est épouvantable de dire une chose
pareille. Non, mais c'est du délire, Arnaud, c'est du délire.
Là, c'est le peuple russe. La propagande russe traite les Ukrainiens de nazis, et là, tu, enfin, c'est épouvantable de dire une chose pareille.
C'est absolument pas du délire. Et quand, en plus, il faut voir comment c'est écrit. Je veux dire, tout baigne dans la scatologie. À un moment, il écrit pour avoir l'esprit en cuvette. Il faut avoir l'esprit en cuvette de WC pour accepter de bouffer de la merde, dit-il à propos des Russes. Mais pour en écrire, il faut avoir l'esprit comment ?
Non, mais franchement.
Si j'avais su, j'aurais jamais inscrit ce livre au programme.
Ah, tu vois ce que tu avais dit. C'est
la démocratie.
Tu l'avais dit en commençant.
Non, mais c'est dingue.
Mais si tu mets des essais, on va finir par s'engueuler comme dans un café du commerce.
Mais en plus, il n'y a plus de liberté d'expression. Après, on va dire aux Russes, il n'y a pas de liberté d'expression.
Z comme zombie.
Mais pourquoi il est dans cet état?
On se calme.
Pourquoi il est dans cet état dès l'entrée?
C'est pas parce qu'on est à Nancy qu'il faut que tu t'excites. Z comme zombie de Yegor Gran chez POL. Où es-tu, monde admirable? Point d'interrogation. Traduit par Laetitia Devaux aux éditions de l'Olivier. C'est le titre emprunté à Schiller du nouveau roman de la jeune irlandaise Sally Rooney, surnommée désormais la Jane Austen des Millennials. Faut-il rappeler que son deuxième livre, Normal People, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde et a été adapté en série avec le succès qu'on sait. Le succès, justement, Alice, la jeune héroïne, l'a rencontrée avec son roman et elle a du mal à l'assumer. Elle quitte Dublin, où elle déprimait, pour s'installer dans le presbytère d'un village irlandais au bord de la mer. Elle fait la connaissance de Félix, qui est un magasinier bisexuel sur un site de rencontre, tandis qu'Aileen, sa meilleure amie, qui est restée à Dublin et qui travaille pour un magazine littéraire, renoue avec un copain d'enfance, Simon, qui est assistant parlementaire et catholique. C'est pas incompatible. Malgré, ou plutôt grâce à la distance, les bientôt trentenaires Alice et Aileen correspondent tous les jours par email. Il est question de sexe, d'amour, d'argent, d'amitié, de religion, de politique, mais aussi du monde tel qu'il est. J'oubliais, le livre frôle les 400 pages, donc en général, quand les livres sont trop longs, vous vous plaignez. S'ils sont trop courts, comme le précédent, vous vous en plaignez aussi. Jean-Claude, as-tu lu ce nouveau roman de Sally Rooney, de la désormais mythologique Sally Rooney?
Non seulement je l'ai lu, mais je l'ai lu de la première à la dernière page, y compris les pages de remerciements, qui sont longues. Non, la première leçon qu'on tire de cette lecture, c'est qu'un succès mondial ne préserve pas d'écrire un mauvais livre. Et sauf que l'attente est très forte, vu le plaisir du précédent, et que la déception est à la hauteur de cette espérance, évidemment. Et là, pour tout vous dire, on tombe de haut et on descend très très bas. C'est ennuyeux.
T'exagères pas un peu?
Non, c'est ennuyeux, c'est long, c'est sans grand intérêt, c'est un style étrange, assez plat. C'est le tour opérateur de la grande tendance narcissique contemporaine, moi, avec des problèmes de colocation, de sexe sur un vague fond de pessimisme et d'angoisse sur l'avenir de la planète. C'est la visite guidée de plusieurs nombrils. C'est que des sujets dans l'air du temps, mais mollement passé au robot mixeur. Donc il en sort une bouillie fade et sans saveur. C'est bien aussi la confirmation que les SMS ne valent pas les correspondances de jadis des amours épistolaires.
Ce sont des mails et non des SMS.
Oui, enfin bon, c'est pareil.
Non, mais
c'est la forme. C'est la forme. Donc c'est un catalogue. Si vous voulez avoir un catalogue de banalités, précipitez-vous, tout y est.
On a compris.
Alors, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a aucun style, zéro, néant, ça vous tombe des yeux. C'est le médiocre comme étalon esthétique. Alors, t'as parlé de ce personnage de Hélène. Alors, Hélène, très intéressant, c'est ouin-ouin au pays des platitudes. Elle est toujours en train de se plaindre, tout le temps. La fin du livre, quand on arrive quand même de façon héroïque à la fin du livre, c'est tartignol, c'est carrément cucul à praloche. Et ça se perd en remerciements. Il y a 25 personnes
en remerciements. C'est bon, on a compris.
Et donc, où es-tu, mon admirable? Il n'est pas dans ce livre.
Je vais avoir du mal à aller jusqu'au bout de cette émission. Elisabeth?
Non, mais j'ai envie de répondre simplement à Jean-Claude. Ok, boomer. Non, mais.
Je plaisante parce que le livre
de Sally Rooney, non, ça, vraiment, là, je lui rends pas justice. Ça s'élève bien plus haut que ça. Tu disais qu'elle était comparée à, enfin, on la surnomme
Jane Austen des Millennials.
Pour moi, c'est plus l'enfant de Jane Austen et de Karl Marx, mais né à l'âge numérique. Au contraire, c'est pas du tout du narcissisme parce qu'elle arrive toujours, justement, son ambition, c'est d'imbriquer ses histoires d'amour, ces intermittences du cœur chez des jeunes gens assez fragiles, sensibles. Alice a connu une grave dépression après son succès. Ils sont tous un peu, c'est compliqué. Mais elle imbrique ça avec des considérations sur l'état du monde et d'un monde qui s'écroule, d'une civilisation qui s'effondre. Et en fait.
Oui, il est beaucoup question des injustices, d'ailleurs.
Des injustices, du système capitaliste, de la crise climatique. Bon, c'est pas des problèmes.
L'avenir de la planète. Bah, ouais,
oui,
c'est pas
rien. Et la grande question de ce livre, c'est comment on continue à vivre des histoires d'amour dans un monde qui s'effondre, et même comment on continue à écrire des romans qui parlent d'amour dans un monde qui s'effondre. Et moi, je trouve que Sally Rooney, elle apporte une réponse exemplaire, et que tu dis qu'il n'y a pas de style, mais c'est complètement faux. C'est un mélange très subtil, Sally Rooney, d'une écriture à la fois très cérébrale et en même temps très sensuelle. Je trouve qu'il y a des scènes de sexe très électrisantes. Elle réussit très bien ces scènes de sexe
électrisantes.
Et ben notamment la scène de sexe où ils font une scène de sexe par téléphone, qui est
Ah oui,
oui.
Bon,
c'est pas d'une originalité folle, certes. Je sais que tu es coutumier de ce genre
Baker
de choses.
C'est pas Nicholson Baker qui avait fait entièrement un livre sur une scène de sexe au téléphone, un roman entier. Ouais.
Alors c'est pas Nicholson Baker, c'est Sally Rooney. Et moi, je suis très sensible à ça, et je trouve qu'il y a des dialogues très fins aussi. Et non, je le trouve totalement injuste.
Arnaud,
je ne crois pas.
Mais on est vraiment là dans une perspective sociologique. Elisabeth l'a dit en disant OK boomer. C'est-à-dire que d'un côté vous avez donc un roman épistolaire, celui de Virginie Despentes, qui s'adresse exactement aux gens de 50 ans, qui a exactement la même construction que le livre de Sally Rooney. Simplement, celui de Sally Rooney s'adresse aux gens de 30 ans. C'est exactement. Mais sinon, c'est la même construction. C'est-à-dire ils s'échangent des lettres, des mails. Ils parlent de tout et de rien, on va dire. Hein, des fois de leurs histoires de cœur. Je pense qu'il y a un sujet d'ailleurs qui est propre aux millennials, comme on dit, qui est celui de l'amitié sexuelle. Parce que c'est vrai que là, c'est pas l'amour finalement, c'est l'idée d'une nouvelle amitié qui serait sexuelle. Avant, on disait l'amour c'est avec le sexe, puis l'amitié c'est sans le sexe. Mais non, justement, il y a un brouillage là qui est assez intéressant d'un point de vue romanesque. Et puis, mais quand même, il faut le dire, c'est à mon avis entièrement pompé sur l'ami prodigieux. C'est-à-dire que les deux personnages féminins, c'est exactement la même chose. C'est une fille qui écrit et l'autre qui aurait été meilleure si elle avait écrit, sauf qu'elle a décidé de ne pas écrire. C'est exactement les deux mêmes personnages et les mêmes relations d'amitié entre elles deux. Et donc, quand même, on se dit, mais moi, j'ai déjà lu L'Amie prodigieuse, donc on balance exactement la même histoire à une nouvelle génération en faisant passer que c'est un produit différent. Mais à mon avis,
c'est pas du tout la même écriture.
Franchement, il y a quand même là quelque chose là du
Dès qu'un livre avec deux femmes qui sont amies, c'est pas la même chose.
Une fabrication, une standardisation que je sens aussi dans le best-seller mondial de Sally Rooney.
Bah, tu as défendu.
Bon, il y a un nouveau genre, c'est le roman par mail maintenant. Donc, on va tous publier nos mails, ça va être super intéressant. Elle a inventé un truc, c'est la comédie romantique marxiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement comme une comédie romantique. Il y a une nana qui tombe amoureuse d'un garçon. Là, il se trouve qu'il est plus pauvre, comme dans le précédent d'ailleurs, elle aime bien les différences de milieux sociaux. Mais alors, là où ça devient marxiste, c'est qu'ils discutent de la fin du monde. Et donc, c'est ça la grande différence. Mais c'est comme si tu regardais finalement un
soap. C'est quand même une différence de taille.
Non, mais ça m'a fait penser à certains films, par exemple La Maman et la Putain, qui a fait un chef-d'œuvre, ou à Emmanuel Mouret. Tu vois, c'est des gens, des chassés-croisés amoureux. Mais de temps en temps, on parle de sujets politiques au lit, quoi, en buvant du vin blanc.
Tu donnes très envie de le lire.
J'ai trouvé ça. Mais il y a des bonnes phrases. Hein. La mort, c'est l'apocalypse à la première personne. Ben, ça, c'est bien.
Où es-tu, monde admirable ? Aux éditions de L'Olivier, le nouveau livre de Sally Rooney. Encore un gros roman, 420 pages. Et c'est chez Gallimard, Arnaud, dans la collection L'Infini de Philippe Solers, le trésorier payeur de Yannick Enel, l'auteur de Tiens ferme ta couronne, qui avait le prix Médicis en 2017. Un roman qui se déroule à Béthune, dans l'ancienne succursale de la Banque de France, devenue un centre d'art, où d'ailleurs Yannick Enel, il le raconte au début, avait participé en 96 à une exposition collective sur le thème de la dépense. Un lieu qui lui inspire aujourd'hui cette biographie imaginaire de Georges Bataille. Georges Bataille, pas l'écrivain de la littérature El Mal et du Bleu du Ciel, mais un trésorier payeur qui est né dans les années 60 et affecté à Béthune. Il y a même un tunnel qui est creusé entre la banque et sa maison en briques rouges. Bataille qui défend les surendettés, on revient au marxisme de Sally Rooney, qui défend les surendettés, la région est en crise, qui s'engage dans la confrérie des charitables, qui collabore avec Emmaüs, qui découvre le vertige sexuel avec la libraire Annabelle et le grand amour avec la dentiste Lilia Misaki, un trésorier
bravo,
payant.
Bravo, hein. Bravo, parce que là, réussir à résumer le bouquin.
Très mélanchoniste, tendance anarchiste, très porté sur la chose, en vertu de ce postulat, la vraie richesse est sexuelle, car en elle, tout se dépense. Pas mal, hein ? Arnaud, ouais. Vous l'ajoutez un mot ou pas ? Bon résumé, excellent.
Non, c'est bien.
Ah, c'est un exploit.
Donc, on termine sur le mot dépense, et c'est le mot important, puisque c'est un des concepts de Georges Bataille, le philosophe et l'écrivain, et c'est comme ça. Et donc, il y a une longue introduction à ce roman.
Qu'on peut juger trop longue.
On peut la juger trop longue, mais on peut la juger, au contraire, absolument nécessaire et intéressante, puisqu'elle raconte comment Yannick Enel est en arrivé à écrire ce livre, et pourquoi il... Et la chose stupéfiante, c'est qu'on lui avait demandé de faire une exposition à Béthune sur dans une ancienne banque sur le thème
donc l'ancienne succursale de la Banque de France.
Voilà, donc sur le thème de la dépense, et il se trouve qu'il a eu une idée et qu'il a découvert par la suite que vraiment quelqu'un qui s'appelait Georges Bataille, un homonyme de l'écrivain, avait réellement travaillé dans cette banque à Béthune. Donc évidemment, toute chose s'est mis en route, et le roman c'est ce qui lui est arrivé de penser. C'est un peu plus compliqué, l'introduction est un peu plus longue, parce que déjà il y a l'idée de la charité et d'Emmaüs dans cette introduction. C'est un véritable roman, c'est-à-dire qu'il y a une imagination totalement débordante, comment dire, avec une sensualité permanente, parce que ces idées philosophiques qui sont importantes, et l'argent quand même, le thème de l'argent, le thème de la dépense, on est en plein dedans là, comment dire, l'esprit du temps, il est dans ce livre, c'est exactement ce que nous vivons, c'est-à-dire aussi l'argent comme une religion, et comment on passe justement à la charité, comment on passe à un ordre supérieur, c'est ce qui est raconté, mais d'une manière extrêmement sensuelle, avec une vision en plus de la ville de Béthune que je ne connais pas personnellement, mais qui m'a l'air extrêmement psychogéographique. Et donc moi j'étais emporté, absolument emporté par ce livre. Oui, salut Béthune, je viendrai volontiers.
Frédéric.
Bon, j'ai rien compris, comme vous avez dû peut-être le deviner, parce que vraiment je n'ai pas compris. Je pense que Yannick Enel, c'est un écrivain très intéressant. Il a créé une revue qui s'appelle Ligne de risque, et c'est vrai qu'il est poussé par Solers avec ses petits camarades François Mironis ouais. et Frédéric Badré, qui malheureusement n'est plus là. Mais il cherchait une voie entre le réalisme et la poésie, entre le reportage et un certain fantastique. Ouais. Il cherche ça.
Et un poil de métaphysique aussi.
Plus qu'un poil.
Mais. Mais moi, je trouve qu'il n'y arrive pas. Je trouve qu'il est bien meilleur, par exemple, quand il fait son compte-rendu du procès des attentats de Charlie Hebdo, de l'attentat du 7 janvier, où il a écrit un livre là-dessus qui est magnifique, comme Carrère sur le Bataclan. Il a aussi fait, à mon avis, son meilleur livre sur Jan Karski. Et je trouve que là, moi, je n'y arrive pas. Je pense que cette troisième voie qu'il cherche, elle n'est pas tenable. Comment faire un roman sur un banquier... un capitaliste donc, mais qui est en fait un utopiste communiste.
C'est un philosophe qui arrive. Mais ça, on pense
on
vraiment
croit pas une seconde.
Au banquier anarchiste de Pessoa. Là, c'est le banquier philosophe.
Qu'il
réalité.
Cite oui. dans le
voilà.
Livre.
Alors il creuse un tunnel entre la banque
et sa maison.
Et sa maison, comme Albert Spaggiari un peu, qui avait fait un tunnel pour emmener l'argent. Enfin bon,
il emmène si pas tu veux, moi je, tout, hein.
J'ai lâché. C'est vrai que les scènes, il y a une scène d'ailleurs un peu de boîte de nuit qui m'a bien plu. Il y a les scènes sensuelles, un peu sexy, ça va. Mais sinon le reste, je lâche complètement. Je j'arrive pas à suivre quoi.
Il y a un concert de Mark Zuckerberg aussi.
Elisabeth.
Non, mais en fait son livre, Enel, il est fidèle à la philosophie que prône son personnage, c'est-à-dire que il ne faut pas s'économiser, il faut tout dépenser, se consumer. Et dans ce livre, lui non plus ne s'économise pas. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et Enel quel que soit son sujet, il le porte toujours à un point d'incandescence, toujours. Et là, ça brûle, ça flambe, ça flamboie, c'est parfois à la limite du kitsch, un peu emphatique, mais moi, je trouve que ça fonctionne quand même parce que ça passe par des scènes parfois extrêmement fortes. Je veux dire, la scène, la visite des Reagan dans la salle des coffres souterraine de la Banque de France, génial, qui tout d'un coup devient une espèce d'endroit sacré, de rite un peu païen, c'est complètement fou comme scène. Et moi, c'est ça que j'aime chez Enel, cette espèce de folie, d'ivresse aussi, parce qu'il y a énormément de scènes d'ivresse, toujours chez Yannick Enel. Et ah oui, bon, j'ai pas tout compris non plus, je dois l'avouer, mais il y a quand même ce style aussi d'Enel qui est incandescent, qui fonctionne en tout cas sur moi.
Jean-Claude.
Eh ben moi je suis comme Arnaud, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. En effet,
tu as tout compris?
Non, j'ai pas tout compris, mais peu importe. Je veux dire, c'est le plaisir le plaisir de la lecture. Il n'est pas toujours de tout comprendre. Il est de se laisser emporter. Et précisément, il nous emporte. Alors, le premier tiers est en effet, il faut prévenir les auditeurs, est un petit peu compliqué, alourdi de considérations philosophiques. Mais
surtout, il n'est pas forcément utile à la narration.
Si. Je trouve que la démonstration d'Arnaud est juste cette fois-ci. Une fois qu'il a posé véritablement les pilotis de son roman, après, ça fonctionne formidablement bien. Et moi, je trouve que la très belle astuce romanesque, et c'est solide, c'est bien construit et tout, c'est d'arriver justement à cette dénonciation du capitalisme, de ce capitalisme qui nous entraîne vers une sorte de mort ou de ruine collective, cet éloge de la gratuité, de la miséricorde, l'éloge de l'évangile selon saint Matthieu, tout ça. Et il greffe là-dessus une histoire d'amour fou. Alors là, les boomers, c'est tout ça. Je veux dire, à côté de ta copine
Sally Rooney,
c'est autre chose. Là, on a affaire à quelque chose. Alors, vive les boomers, parce que là, on a une description de ce que c'est qu'un amour fou, mais qui est absolument magnifique. Et sa réussite exceptionnelle, c'est de greffer cette histoire de capitalisme, de banquier, anarchiste, philosophe, avec cette histoire d'amour fou. Et là, romanesquement, c'est absolument fascinant. Donc, je rejoins Arnaud, et je pense que c'est à noter.
C'est aussi, vous ne l'avez pas dit, c'est quand même un livre très solercien dans son esprit et dans sa démarche. Le trésorier payeur de Yannick Enel, c'est chez Gallimard. Commencement au pluriel, alors vraiment très 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 abusivement sous-titré roman. C'est chez Flammarion, le nouveau livre de Catherine Millet à qui on doit il y a 20 ans, vous le savez tous, La vie sexuelle de Catherine M. et qui dirige, vous le savez sans doute aussi, la revue Art Press. Dans ses commencements, qui est la suite de son livre « Une enfance de rêve », elle raconte sa formation intellectuelle dans les milieux de l'avant-garde artistique, au tournant des années 60-70, entre New York, Venise, Paris, Düsseldorf, où d'ailleurs la liberté de créer s'accorde à la liberté sexuelle. Et pourtant, aucune nostalgie dans ce livre. Et on sent que les sentiments, c'est pas le genre de la maison. Impossible, en revanche, de citer. Alors là, c'est... tous les noms célèbres d'écrivains, d'artistes et autres qu'on croise dans ces pages. Je pense que le temps de l'émission, en tout cas de ce qui nous reste, n'y suffirait pas. Mais c'est un bottin quand même très, 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 très mondain. Commencement donc de Catherine Millet. Frédéric.
Non, mais moi non plus, j'ai pas le temps de dire tout le bien que je pense de ce livre. C'est une lecture... je trouve assez un livre, c'est comme si j'avais l'impression de lire un classique. J'avais l'impression de lire un livre rare, écrit comme si c'était les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, ou parfois ça a l'air d'être un peu Marcel Proust, puisqu'il y a des longues phrases. Il y a une analyse de la formation de cette jeune femme dans les années 60. Alors oui, il y a beaucoup de noms propres parce que c'est les années 60 et que dans les années 60, il y a un tel bouillonnement, une telle révolution artistique autour d'elle. Et par hasard, elle se retrouve au milieu de tout ça. Elle raconte assez bien comment ça coïncide avec aussi son éducation sexuelle. Donc c'est elle a ses premiers orgasmes à la fois visuels avec l'art autour d'elle, l'art contemporain, et puis des vraies expériences, de tenter des trucs à plusieurs et tout ça. Et je pense que c'est très innocent, c'est raconté comme si elle regardait sa vie comme un spectacle, comme un art, comme une œuvre d'art. C'est très finement analysé. Moi, je pense que Catherine Millet, qui a démarré très tard, parce qu'elle a publié La vie sexuelle à 51 ans, là, avec ce quatrième tome de son éducation, de son autobiographie, on peut dire, après Jour de souffrance
c'est
et
donc pas un roman, t'es d'accord.
C'est vraiment un écrivain aujourd'hui très important. C'est pour ça que moi, personnellement, je trouve dommage qu'elle ne soit pas sur la liste du prix Goncourt.
J'aime beaucoup quand vous dites « moi, personnellement ». Jean-Claude.
Écoute, on commence à nous la bailler belle là, avec Catherine Millet.
À nous la bailler belle.
Oui, on nous la baille belle avec Catherine Millet. sérieusement, là, franchement, là, ton délire sur ces Proust, elle devrait avoir le Goncourt, elle écrit des phrases à la...
Tu veux que je te lise des extraits?
Ah, non, franchement, tu peux pas infliger ça aux auditeurs. Non, n'inflige pas ça aux auditeurs. Non, s'il te plaît.
Si tu écrivais comme ça.
Parce que tu étais absolument pas convaincant et là, tu vas risquer totalement ce qui te reste de crédit. Il est évident que Catherine Millet cherche à avoir du style, ne l'a pas encore trouvé et ce qu'il y a de terrible, c'est de voir à quel point laborieusement elle essaie de faire du style. Donc, en effet, elle fait des phrases à rallonge. Alors, moi, je vais te dire, j'ai pas besoin d'ouvrir le livre, je vais te dire. Il y a un certain nombre de phrases qui commencent par disons que. Ça, c'est très léger, c'est très, voilà. Ils passèrent le bac, point. À la suite de quoi, virgule, Patrick s'inscrivit en médecine. À la suite de quoi? À la suite de quoi? Catherine Millet fait partie de ces gens qui écrivent dans un livre au jour d'aujourd'hui. Catherine Millet, tu vois. Alors là, je vais te dire, Proust, il est enfoncé, tu vois. Là, c'est sûr et certain.
Bon, d'accord. Donc, là-dessus.
Tu vois, par exemple, à un moment, elle parle du goût des pieds dans le plat. Alors moi, je veux bien mettre les pieds dans le plat, mais les goûter, voilà. Alors quand ça part comme ça, parce qu'on est à la page 11 là.
Non, ça part comme ça. Tu fais pas les 300 pages comme
ça. Par expérience de lecteur, on sait qu'il est rare de redresser la barre. Et alors là, ensuite, c'est une longue glissade pente. C'est très très ennuyeux et surtout, ce qui est très gênant, c'est l'absence de style d'une personne qui jouit d'une telle, si je peux me permettre, d'une telle aura médiatique à Saint-Germain-des-Prés. Franchement, on est dans le degré quasi zéro de l'écriture. Et c'est surtout une noix blanche. C'est Martine découvre Paris. Martine découvre son corps. Martine va dans des galeries. Martine voyage. Martine fait des rencontres. C'est ça, Catherine Millet. Excuse-moi. Alors, tu as raison. Elle rivalise avec Proust. Tu as raison. Mais franchement, là.
C'est l'histoire d'une émancipation adolescente. C'est très malhonnête et très facile.
Non, c'est pas malhonnête du tout. Je considère que je suis un travail honnête de prévenir les auditeurs de... Ça suffit. Ça suffit, la complaisance critique actuellement autour de Catherine Millet, ça ne le vaut pas.
Jean-Claude, laisse parler tout le monde. Elisabeth.
Alors, moi, personnellement, ce que je trouve toujours très troublant chez Catherine Millet, c'est que cette femme qui a été aux avant-postes de l'avant-garde artistique écrive avec un tel classicisme. Alors, certes, avec aussi peut-être des lourdeurs que tu as soulevées. Mais même dans les images que ces phrases suscitent, pour en prendre qu'un exemple, quand elle rencontre les jeunes étudiants qui ont cette revue de poésie qui s'appelle Strophe, c'est dans un café, ils sont là en groupe, dans un clair-obscur, on a l'impression de voir un tableau de Rembrandt, Les Pèlerins d'Emmaüs. On est quand même très loin des compressions de César. Donc je trouve ce décalage pas forcément inintéressant. Après, quand même, bon, elle est spécialiste d'art conceptuel et le livre reste assez conceptuel. C'est quand même l'histoire d'une émancipation. Enfin, c'est censé être l'histoire d'une émancipation à la fois par l'art et par le sexe. Et ça manque cruellement de chair. C'est comme si elle-même n'était que concept. Donc c'est assez froid et c'est peut-être lié au fait que c'est ce que tu relevais avec une certaine violence.
Elle parle de ce dédoublement, cette dépersonnalisation.
Oui, en fait, elle n'est qu'un œil, elle n'est que spectatrice, c'est ce que tu dis.
C'est
ça la beauté du livre. Voilà, la beauté du livre, c'est justement, c'est qu'elle est absente.
Ça peut être un peu rébarbatif
elle
aussi.
Elle est absente à elle-même, et effectivement, c'est écrit dans une prose classique.
Arnaud.
Je suis totalement d'accord avec Frédéric pour dire que c'est une grande écrivaine, mais ça, on le savait depuis La vie sexuelle de Catherine M, qui est franchement le dernier grand livre érotique du XXe siècle. Siècle, vraiment un chef-d'œuvre absolu, justement très conceptuel, très géométrique pour parler de Partouze. Là, on retrouve la même absence à elle-même qui est formidable parce qu'en même temps, elle voit tout et la manière dont elle restitue tout de cette époque au moindre détail, c'est comme elle avait vraiment tout emmagasiné dans sa mémoire.
Oui, il y a une précision des souvenirs.
Voilà. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui me touche, devrait tous ici nous toucher. C'est qu'elle raconte un devenir critique. Comment elle devient critique? Et en fait, elle est autodidacte. Elle ne connaît rien à l'art contemporain, mais elle est curieuse. Elle est absente à elle-même et extrêmement curieuse des autres. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle raconte, effectivement, elle écrit quand même dans les lettres françaises qui étaient encore à l'époque dirigées par Aragon. C'est pas rien. Elle débute, pourquoi? Parce qu'elle est jeune et qu'ils ont besoin d'un regard jeune à travers des vieux trous, quoi. Donc c'est vraiment ça l'histoire. Oui, c'est un aphorisme de Lichtenberg, hein, oui. Un regard neuf à travers de vieux trous.
Oui. Aucun de vous n'a répondu à ma question, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un roman?
Non, mais c'est un...
mais, parce que. Bah, mais, oh, si. Mais je veux dire, mais les livres aujourd'hui, cette catégorie roman, elle est devenue totalement pneumatique. Mais que ce sont des mémoires. Mais bon. C'est un livre d'impression, finalement.
Après, moi, ma vraie question, est-ce que ça peut plaire à un public de non-initiés, parce qu'elle parle quand même beaucoup d'artistes contemporains, enfin d'artistes qui sont souvent méconnus.
Et elle fait pas passer de passion. Tout le monde a été jeune, tout le monde a souffert. Elle a perdu son frère dans un accident de voiture.
C'est une grande histoire d'amour avec elle et le galerie.
Oui, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de découverte du monde, de l'art.
Avec une liberté, justement.
Oui, mais il y a beaucoup de pages sur l'art contemporain et qui ne sont pas forcément...
Si vous avez raison,
ce sera le dernier mot parce que je vois qu'on évoque un dernier livre.
Ce qui n'est évidemment pas le cas, pourquoi écrit-elle de façon aussi banale, aussi plate et aussi mal?
Mais tu ne l'as pas lu.
C'est d'un classicisme au contraire.
Non, mais quand tu parles de classicisme, c'est ça qu'il faut.
Dans la langue, je ne suis pas.
Non, mais c'est ça qu'il faut combattre. C'est l'idée que ça serait une grande classique.
C'est
une grande classique. Arrête.
En premier lieu.
Allez. On n'a pas le droit de faire croire aux éditeurs que c'est une grande classique. Arrêtez quand même.
Commencement au pluriel, c'est le nouveau roman de Catherine Millet. C'est chez Flammarion. On termine en haletant, mais pas tant que ça, avec Russell Banks, le vétéran américain de la soirée, auteur de Deux beaux lendemains, qui publie à 82 ans peut-être son roman le plus personnel et le plus mélancolique, Au Canada. Traduit de l'anglais par Pierre Furlan, aux éditions Actes Sud, dont le narrateur, Léonard, est un vieux documentariste de gauche, en fin de course, en fin de vie, dont les jours sont comptés. Et là, il y a une équipe de télé qui est conduite par un de ses disciples qui débarque chez lui dans l'espoir d'enregistrer ses dernières paroles. Léonard demande la pénombre, ne répond pas aux questions, mais il se raconte longuement en présence de sa femme. Il veut qu'elle soit là. Et ce qu'il raconte ressemble beaucoup à ce que Russell Banks a vécu quand au titre, il évoque la période de la guerre du Vietnam, quand près de 60 000 jeunes appelés sont partis se réfugier au Canada, où Pierre Prudeau, qui est le père de Justine, a refusé de les extrader malgré la demande des États-Unis, un pays dont il juge d'ailleurs aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui, qu'il est devenu encore plus réactionnaire que dans les années 20 au Canada. Russell Banks. Frédéric ?
Voltaire, je crois, disait qu'il aimait tous les genres sauf le genre emmerdant. Mais enfin, il disait ennuyeux. Mais je me suis beaucoup ennuyé. J'ai l'impression qu'il refait un livre qu'il avait déjà écrit qui s'appelait Affliction, où c'était aussi un bilan de vie.
C'était pas ça du tout, non.
Voilà, d'un homme détruit par son père, par sa femme, par sa fille.
Ah non, pas du tout.
Ça m'a rappelé aussi Némésis de Philip Roth, mais qui était quand même plus amusant. Ah, là, franchement, je trouve que non, j'ai pas adhéré. Je me demandais pourquoi il s'appelait Fife, Léonard Fife.
Oui.
Peut-être c'est les initiales de Fake Life, parce que c'est l'histoire d'un type qui raconte sa vie mais ment tout le temps, où on ne sait pas très bien si la vie qu'il a racontée à ses proches était la vraie ou s'il s'en souvient plus. Et moi j'ai ressenti ça, j'ai senti que c'était un peu fake.
Jean-Claude ? Ouais.
Qu'attendre d'un lecteur qui considère Catherine Millet comme une rivale de Proust. C'est un livre formidable, c'est un livre magnifique, avec une construction du récit qui est très travaillée, labyrinthique, avec des flashbacks insérés comme par accident au rythme que la mémoire imprime aux souvenirs, sans prévenir et en imposant à l'esprit des bifurcations involontaires. Alors, excuse-moi, en effet, c'est un petit peu plus ambitieux que j'ai couché avec machin, j'ai découvert trucs.
C'est la même chose,
regardez comme
bien.
J'écris bien. Bon, c'est surtout un art très subtil chez Russell Banks d'alimenter le suspense sur les mensonges accumulés pendant toute une vie à l'heure du bilan. Et la question, c'est dire ou ne pas dire la vérité sur
soi. C'est pour ça qu'il veut que sa femme soit présente, d'ailleurs.
Oui, voilà. Ou bien quémander le pardon.
Ça, il insiste bien sur ce point.
Et on peut aussi partir en demeurant caché derrière la fiction du personnage. Par exemple, toi, ton personnage, tu peux partir en te cachant derrière le personnage que tu fictionnes depuis des années.
Là,
ou bien,
Jean-Claude ou bien, parle, je dis ça pour les auditeurs et pas au public de Nancy, Frédéric Becbédé.
Ou bien,
sinon c'est incompréhensible.
Ou bien un moment, tu nous dis qui tu es. Donc c'est ça l'enjeu du livre. Au-delà des 60 000 combattants qui sont allés se cacher au Canada, c'est ça, c'est en fait se dévoiler véritablement. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un livre qui avance en spirale, qui est très, très, très joliment travaillé. Et c'est aussi le labyrinthe des souvenirs. Voilà. Et qui peut se vanter de maîtriser le labyrinthe de ses propres souvenirs. Moi, je trouve ça très, très beau. Voilà.
Elisabeth ?
C'est un roman crépusculaire, déjà, parce qu'il est plongé dans cette obscurité, ce salon plongé dans le noir, et puis avec la caméra braquée sur lui, comme dans un interrogatoire, il y a un côté un peu Jugement dernier. Ça aurait pu être très beau, mais alors, moi, je suis vraiment en désaccord avec toi. La construction, c'est un ratage total. Le dispositif narratif, donc, par moment, il part dans ses souvenirs.
La spirale.
Il y a des interruptions. De non, mais ce qui est vraiment très pénible, c'est les interruptions de l'équipe de tournage. Toutes les deux pages, avec en plus ce réalisateur qui est débile, scande toutes ses phrases par « Eh, ça va, Man ? Comment ça va, Man ?» C'est horripilant au possible. Non, mais ça plombe absolument tout. Enfin, ces interruptions permanentes, et en plus, ça crée des redondances, des redites qui, là aussi, plombent la narration. Et au bout d'un moment, finalement, savoir s'il délire ses souvenirs ou s'ils sont vrais, s'il a vraiment connu John Baez ou pas, je trouve qu'on s'en manque un petit peu.
On s'en fout.
Ouais, on s'en fout.
Arnaud.
Moi, je m'en fous pas du tout. J'ai trouvé ça extrêmement beau. J'ai trouvé que c'était un très grand livre. À 82 ans, on sent Russell Banks à la fois avec une verve de gamin, parce qu'il y a beaucoup de drôlerie. En fait, on pourrait penser que c'est glauque, mais non. Mais tout ce jeu avec l'équipe de cinéma autour, c'est extrêmement drôle. Le réalisateur.
Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Plein de choses. L'histoire de la carte mémoire. Ils sont tout le temps en train de changer la carte mémoire, alors qu'il est précisément question que de mémoire. Il y a toute une inventivité dans le dispositif qui est extraordinaire. Et puis après, quand il plonge dans ses souvenirs, c'est merveilleux, parce que c'est quoi son histoire? C'est un déserteur. Il a toujours déserté. Il a abandonné sa première femme avec un jeune enfant. Il est parti sans dire au revoir, quasiment. Il abandonne sa deuxième femme qui vient d'avoir une fausse couche, en plus. Ils ont déjà un enfant. Elle a une fausse couche. Et il s'en va et il abandonne son pays. Et là, dans le livre, apparaît Dylan et John Baez. Et ça, c'est merveilleux comment il est fait apparaître. Et John Baez qui fait la leçon. Parce que John Baez, elle était mariée. Elle le dit pendant le concert de Woodstock, c'est merveilleux. Elle chante sa chanson, elle dit « Mon mec est en prison et vous inquiétez pas, tout va bien pour lui parce qu'il est déjà en train de foutre le bordel en prison. » Parce qu'elle dit « Il faut pas quitter le pays. » Et vous savez que John Baez a toujours enlevé la part de l'armée de ses impôts. Et elle disait, bon ben le budget de l'armée c'est 14%, moi vous me demandez, j'enlève 14% de mes impôts parce que je ne paye pas pour l'armée.
Enfin, elle a été poursuivie
par le fisc toute sa vie. Vous apprenez ça dans un livre sur John Baez de Stan Quinsta.
Ouais, ça c'est pas dans le livre de Russell Banks.
Non, ça je l'ajoute, non, mais c'est un très beau livre sur la désertion. C'est un type qui est un militant de gauche, qui a fait des documentaires, une espèce de Michael Moore pour aller vite, qui a fait des documentaires engagés.
La vraie vie de Russell Banks a été toujours engagé à gauche, et il y a même une époque, il voulait aller chez Fidel Castro hein, quand il était jeune.
Et comme son personnage qui veut partir à Cuba, et là, qui à la fin de sa vie, et ce qui est très beau, c'est comment il écrit depuis l'agonie, en fait. Un peu d'ailleurs comme les 100 dernières pages du dernier Houellebecq, où c'est d'écrire de plus près de la mort, dans un autre style. Et moi, je trouve ce livre grandiose avec cette idée de est-ce qu'il dit la vérité, par ailleurs. Mais visiblement, enfin, tout laisse à penser, sauf juste à la fin, on peut avoir un doute. Non, c'est quand même.
On n'en sait rien.
Un très très grand roman américain.
On a envie de déserter aussi.
De déserter quoi, le roman?
Le roman, oui.
Bon, bah, je sens que sur aucun livre vous ne serez d'accord ce soir. C'est Au Canada. C'est signé donc Russell Banks. Et c'est aux éditions Actes Sud. Allez, on a tout à fait le temps de conseiller des livres d'auteurs qui, d'ailleurs, pour certains, sont sans doute présents au Livre sur la Place à Nancy. Et je vous demande si vous pouvez, évidemment, d'évoquer un premier roman. Mais si c'est pas le cas, je vous le pardonnerai, pourvu que ça soit un livre que vous avez aimé, vraiment aimé. On va commencer avec Elisabeth.
Alors, c'est bien un premier roman qui s'intitule « Ainsi pleurent nos hommes ». C'est de Dominique Sélis et ça paraît chez Philippe Ray. Alors, Dominique Sélis, elle est née d'une mère rwandaise et d'un père belge. Et c'est également le cas de son héroïne, Erika, qui, 10 ans après le génocide, retourne vivre au Rwanda. Et après avoir construit sa vie en Belgique. Et en fait, à travers les lettres qu'envoie Erika à sa sœur, on comprend que derrière le discours officiel de réconciliation, derrière le miracle économique rwandais qui est tant vanté, la réalité est beaucoup plus douloureuse. Comment est-ce qu'on vit normalement quand à chaque moment on peut croiser le bourreau de ses proches? Comment on peut vivre une histoire d'amour, ce que Erika tente de vivre, quand on est marqué dans sa chair, dans son corps même, par les atrocités qui ont été commises? Je trouve que c'est un roman magnifique, très dur, très violent, mais porté par un lyrisme plein de rage. C'est très très fort.
Donc c'est Dominique Sélis.
Ainsi pleurent nos hommes,
c'est Philippe Ray. Et c'est aux éditions Philippe Ray qui ont quand même, je le rappelle, reçu l'an passé le prix Goncourt pour le roman de M. Bougarsart. Le conseil de Jean-Claude.
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, qui est un proverbe local, de Maria Larrea chez Grasset. À 27 ans, Maria Larrea, elle est réalisatrice et elle découvre, grâce à une voyante, qu'elle n'est pas la fille de ses parents. Et elle va découvrir aussi que son père et sa mère adoptifs ont été eux-mêmes des enfants abandonnés et volés au temps du franquisme. Donc débute quelque chose d'assez vertigineux, qui est une enquête qu'elle va faire pour essayer de comprendre qui elle est elle-même, d'où ils viennent, ce qui leur est arrivé. Et là, elle dévoile tout un trafic pendant le franquisme d'enfants abandonnés et d'enfants volés, qui ont été comme ça distribués avec des médecins accoucheurs véreux, avec un truc énorme. Alors on savait que ça existait, on savait que dans l'histoire de l'Espagne il y avait ça, mais c'est la première fois que quelqu'un le raconte de l'intérieur, et c'est sa propre histoire. Et elle reconstitue tout un passé, elle mène une enquête très très longue, et c'est un récit fascinant, magnifiquement écrit, vraiment, un très très beau livre. Voilà, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, de Maria Larrea, premier roman chez Grasset.
Tu parlais de réalisatrice. Mon conseil, c'est un premier roman, Les Tourmentés, aux éditions Alma, et qui est signé du cinéaste Lucas Bellevaux. Une veuve fortunée, qui en a marre des safaris, décide de chasser pour son ultime battue, de chasser un homme, un vrai homme. Et elle demande à son factotum de lui trouver la proie idéale, et ce sera un ancien légionnaire, qui est en rupture de ban, qui est à la rue, et qui accepte d'être l'homme à abattre pour 3 millions d'euros. Je raconte pas évidemment la suite. Ça se passe, cette chasse est censée se passer dans le nord de la Roumanie. C'est angoissant, c'est haletant. Et puis c'est surtout la preuve pour moi qu'on peut être à la fois réalisateur et romancier, ce qui n'est pas toujours le cas quand on lit certains livres de cinéastes. Là, c'est Les Tourmentés, c'est chez Alma et c'est le premier roman de Lucas Bellevaux. Le conseil de Frédéric.
Alors moi, c'est un premier roman aussi d'un garçon qui a 24 ans, qui s'appelle Nathan Devers, et le titre c'est Les liens artificiels chez Albin Michel. Nathan Devers, il réussit ce que beaucoup de gens ont raté, c'est-à-dire un roman sur le métaverse, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les crypto-monnaies, ce qu'il appelle l'anti-monde, qui est en train de prendre le pouvoir. L'intelligence artificielle est en train de gouverner et de transformer complètement l'humanité. Donc il prend un héros tout simple, un pianiste de jazz au chômage qui va dans un bar et tout ça. Au début, ça se passe aujourd'hui. Et puis progressivement, il va être aspiré dans cet anti-monde parce que comme il a une vie de merde, il passe son temps sur son ordinateur à se transformer en avatar et avoir une vie plus belle, plus intelligente. Il devient un poète célébré et rebelle dans l'anti-monde. Je vais pas raconter toute l'histoire,
non,
mais
parce
c'est
qu'on
très...
aura pas le temps, l'émission va
franchement
se terminer.
Je trouve que par la simplicité de l'écriture, il arrive à rendre passionnante une sorte de grande satire de ce qui nous attend, à savoir que si on refuse de vivre, on va tous crever.
Merci pour cette morale. Tu rappelles le titre et l'éditeur.
Les liens artificiels de Nathan Devers
chez
Albin Michel.
Albin Michel. Enfin, Arnaud.
Moi aussi, donc un premier roman. L'inclinaison de Corentin Durand, c'est chez Gallimard. À mon avis, c'est le roman le plus littéraire de cette rentrée que j'ai lu, parce que il s'inscrit explicitement dans un espace, en fait, c'est celui de la littérature homosexuelle. Alors, le héros a une vingtaine d'années, comme l'auteur, et c'est un jeune homme dealer de drogue synthétique pour pratiquer ce qu'on appelle le chemsex, le sexe chimique, ce fléau qui est en train de toucher la communauté homosexuelle et maintenant aussi hétérosexuelle, visiblement. Mais c'est surtout l'histoire d'un jeune garçon qui refoule violemment son homosexualité, d'où le titre L'inclinaison. Et là, évidemment, c'est la reprise contemporaine d'un thème qui a été traité par de grands écrivains. On pense à Confession d'un masque de Mishima, on pense à La chambre de Giovanni de James Baldwin, mais sauf qu'il l'écrit d'une manière contemporaine, mais tout en s'inscrivant dans cette tradition de récit, de découverte de son homosexualité. On peut aussi évidemment penser à Proust, même si sous l'égide de Modiano qu'il se place, avec une exergue tirée de La place de l'étoile, le premier roman de Modiano.
Le titre
s'appelle L'inclinaison de Corentin Durand chez Gallimard.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr, merci beaucoup Elisabeth Philippe, Jean-Claude Raspienjas, Frédéric Becbédé, Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam
Et ce soir, à l'Opéra de Lorraine, à Nancy, à la technique, il y avait, et je les remercie, Stéphane Foulon, Virginie Lorda, Victoria Asper, Charles Bouticourt, Jean-Michel Manière, chargé de production Guillaume Rialan, la réalisation, bien sûr, Xavier Pestugia. Et notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 22 septembre au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, à partir de 19h pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Je vous dis depuis Nancy que je remercie aussi, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.